Bon, merci pour l'accueil ce matin. Je suis anglais, vous pouvez venir me donner vos commisérations après. Je vais changer de nationalité en français, je pense, maintenant, pour la Coupe du Monde. Après, je retourne en Angleterre. Mais c'est un plaisir d'être là. Et on va regarder ce matin Malachie chapitre 1. C'est quelque chose qui... c'est un livre dans lequel je suis à Carcassonne en train d'étudier, qui m'a vraiment fait réfléchir. Et j'allais utiliser une illustration au début qui peut-être va montrer un peu mon ignorance. Alors ne venez pas tous après pour m'expliquer comment voir un avocat. Parce que le fruit, un avocat pour moi, c'est un fruit vraiment frustrant. Je l'aime beaucoup. Mais aussi, je le déteste parce que j'arrive pas à voir les différences, au savoir quand un avocat est bon et quand c'est pas bon. J'ai l'impression que là, quand c'est dans le bol, on voit pas une différence. Pour moi, ça a l'air bien, mais quand on coupe et on voit l'intérieur, pour moi, l'expérience souvent, c'est que c'est un peu pourri. On voit ces fils à l'intérieur. Alors, si vous savez comment savoir, il faut venir me voir. Mais je suis très frustré. Et voilà, on ne voit pas pour moi une différence, et surtout dans cette période d'attente, quand c'est dans le bol, et ça a l'apparence bien. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des périodes différentes, les persécutions, les moments de réveil, mais souvent c'est une période d'attente, je trouve, dans l'Église, hein, et dans l'histoire du peuple d'Israël. Ici aussi, en Malachie, on voit que c'est une période d'attente. Ils sont revenus de l'exil, ils ont reconstruit le temple, le culte maintenant se passe comme il faut, il y a les sacrifices, il y a les prêtres, il y a tout est en place. Et ils sont dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu. Ils avaient des belles promesses. Dieu qui allait venir à ce temple, et Dieu, le Messie qui était promis. Et je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles avec la situation à cette époque et notre situation. On est dans une période d'attente, n'est-ce pas? On attend que le Seigneur accomplisse ses grandes promesses, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une période où il faut la patience et il faut la fidélité. Et c'est facile, pendant cette période, je trouve, de tomber dans l'hypocrisie. De ressembler les uns aux autres, mais au cœur, on peut être en fait autre chose. Il peut y avoir même jusqu'à la pourriture à l'intérieur, n'est-ce pas, quand on fait tout qui semble bien de l'extérieur. On continue, on vit la vie. Mais ce qui est vraiment, ce qui fait peur dans ce livre de Malachie, c'est qu'ils n'étaient même pas conscients. Et c'est très frappant. Ils n'étaient même pas conscients de l'état dans lequel ils se trouvaient. Alors, dans le chapitre 1, il commence en parlant de l'amour de Dieu pour ce peuple. Après, il y a les reproches contre les prêtres et le manque de crainte qui est là. Il parle du culte dans ce premier chapitre. Dans le chapitre 2, il va parler de l'enseignement de la loi. Mais si vous voulez un titre, j'ai donné pour ce premier chapitre le titre « Examinez-vous vous-même, vous pouvez être hypocrite inconsciemment. Hein? » Il est possible que vous ne soyez plus dans la communion avec le Seigneur sans même en avoir conscience. Alors les versets 1 et 5, je vais aborder ça de cette façon, les versets 1 et 5 parlent de l'amour. « Êtes-vous toujours conscient de l'amour de Dieu ?» Êtes-vous toujours conscient de l'amour de Dieu? Après le verset 7 à 14, est-il possible que vous méprisez Dieu sans en être conscient? Et après, finalement, ne soyez pas inconscient des avertissements de Dieu. À travers ce chapitre, il y a les avertissements, versets 10, 11, 14, et on va voir ces avertissements. Mais versets 1 et 5, êtes-vous toujours conscient de l'amour de Dieu? Et c'est évident que pour ce peuple, la réponse est non, ils n'étaient plus conscients. Alors c'est une bonne question aussi, on peut se poser, pourquoi est-ce que Malachie commence avec la question de l'amour de Dieu? Et je pense qu'il y a peut-être deux raisons. Un, c'est pour rassurer le peuple, parce qu'il va, le donner des reproches durs dans ce chapitre. Et peut-être avant de le reprocher, Dieu veut leur rappeler qu'il les aime et que le but n'est pas de détruire ce peuple, mais les appeler à leur repentance, de revenir à lui. Et c'est comme on fait avec les enfants, n'est-ce pas? On commence en les rassurant de notre amour. Après, ils sont punis. Mais il y a cette rassurance. Dieu les aime. Mais aussi, c'est peut-être pour renforcer la gravité de leur péché. Quand on pêche contre quelqu'un qu'on aime, c'est quand même plus grave, n'est-ce pas? Moi, je m'appelle, il y a un incident dans ma vie, quand j'avais 10-11 ans, qui reste dans mes pensées. Je me suis levé, je voulais suivre mes amis, je suis entré dans la chambre de ma mère et j'ai volé d'argent qui était sous l'oreiller. Je suis parti avec l'argent à l'école, j'étais attrapé après, ma mère n'était pas bête. Mais quand je pense que ma mère qui m'aimait allait probablement dépenser cet argent, même si au moins pendant la journée, m'acheter de la nourriture, les vêtements ou quelque chose, j'ai honte aujourd'hui. Vraiment honte que j'ai volé d'argent de celle qui m'aimait. Et vous savez que personne ne vous aime autant que Dieu. Alors quand on pêche contre Dieu, quand même, c'est grave. Mais on regardait d'abord la preuve de leur manque de conscience de l'amour de Dieu. Et là, on le voit dans le verset 2, n'est-ce pas? « Je vous aimais, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés ?» C'est une réponse triste du peuple de Dieu, n'est-ce pas? Qu'il ose répondre à Dieu d'une telle façon, c'est très frappant. Alors, est-ce les mots qu'ils ont dit carrément? C'est difficile à savoir, c'est possible qu'il y avait une conversation, mais c'est aussi possible que le prophète dévoile leur cœur, leurs attitudes, et qu'il parle dans leur cœur de cette façon, et que Dieu est en train de révéler ce qui se passait à l'intérieur. Alors, c'est vraiment quelque chose, on peut se poser la question, est-il possible quand même de parler d'une telle façon, d'être pas conscient de l'amour de Dieu? Mais quand je regarde la semaine passée, quand on pense à la façon que nous parlons des fois, moi qui crois que Dieu est souverain, qui contrôle ma vie, qui contrôle les choses qui se passent autour de moi, qui contrôle ce monde, combien c'est facile de parler d'une façon comme si Dieu ne m'aime pas. Moi, ma femme est partie vendredi en Angleterre parce que notre fille est malade. Et franchement, on a du mal avec le système des fois de santé en Angleterre, de le faire bouger. Alors elle est rentrée pour l'aider, elle va mal, et aussi pour essayer de faire bouger le système. On est frustré. Mais on parlait en allant à l'aéroport ici à Toulouse vendredi matin du fait qu'il faut faire attention de comment on peut communiquer notre frustration. Et en fait, on peut être en train de mettre en cause l'amour de Dieu pour nous, n'est-ce pas? C'est très facile à faire. Il y a peut-être quelqu'un ici ce matin, vous passez peut-être par un moment de colère, de frustration, dépression, découragement. C'est une bonne question à vous poser. Est-ce que Dieu vous aime? Est-ce que vous le croyez? Et si vous le croyez, est-ce que votre attitude est compatible avec ce que vous croyez? C'est une grande question à se poser. Regardez la preuve que Dieu leur donne de son amour. Et c'est déjà quelque chose, n'est-ce pas, que Dieu passe son temps à répondre à ce peuple. Il aurait pu simplement se retirer et les laisser, et les abandonner même. Mais il raisonne avec eux. Et il leur parle de son amour. Il parle du passé, du présent et aussi du futur. Mais on voit que le passé, il dit, je vous ai choisi, je vous ai aimé. Ésaü n'était-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Paul parle de ce passage en Romains chapitre 9, n'est-ce pas? Et là, il montre que Dieu a aimé Jacob même quand il était dans le ventre de sa mère et n'avait fait ni le bien ni le mal. Alors on a du mal, n'est-ce pas, des fois, à comprendre ces choses. J'ai lu quelque chose récemment où il a dit « Dieu savait sûrement comment Ésaü serait dans sa vie. Il savait que Ésaü allait mépriser son droit d'aînesse. » Et là, c'est vrai. Je suis sûr que Dieu connaissait la vie d'Ésaü avant que Ésaü même vivait. Ça, je n'ai pas un problème, mais j'ai un problème quand même avec Jacob. Parce que Dieu connaissait aussi la vie de Jacob. Il connaissait le cœur de Jacob. Est-ce que le cœur de Jacob était meilleur que le cœur d'Ésaü? Non. On dit, mais Jacob, il a cru après, il a mis sa confiance en Dieu. Mais qui a mis cette foi dans le cœur de Jacob? C'est la grâce de Dieu. Alors, si nous disons que Dieu a choisi Jacob parce qu'il connaissait sa vie, on va dire que Dieu a choisi Jacob parce qu'il connaissait l'œuvre de la grâce qu'il allait faire dans la vie de Jacob. Et pour moi, ça ne résout rien. Alors, croyez la parole, tout simplement, Dieu a aimé Jacob. Et on peut dire, si on est chrétien ce matin, Dieu m'a aimé. Moi, pendant 6 mois avant ma conversion, je me rappelle d'avoir fait les histoires pour une fille chrétienne au travail. Vraiment, j'étais méchant. Hein? Et 6 mois plus tard, dans un autre endroit complètement, Dieu, dans sa grâce, m'a appelé à lui. Et quand je regarde en arrière, je ne savais même pas que cette fille était chrétienne. Et j'ai appris après. Et quand j'appelais, elle m'a dit, oui, j'ai parlé de toi à l'église, ils vont prier pour toi. Et 6 mois plus tard, dans un autre endroit, Dieu m'a sauvé. Il m'a montré l'amour de Jésus-Christ et sa mort pour moi et pour mes péchés. Alors, c'est une grande joie, n'est-ce pas, d'être aimé de Dieu. Dieu nous a aimés. Et il parle aussi du présent. Quand on regarde la situation d'Ésaü, dans le verset 4 là, quand même, on peut dire que c'est les incroyants autour. Quelle situation! Dieu a ramené le peuple d'Israël de leur captivité. Oui, ils sont passés par la discipline. Mais ils sont revenus. Et là, il dit, Ésaü n'est pas revenu. Hein? Dieu les a aimés. Et on peut passer par beaucoup de choses difficiles dans la vie, n'est-ce pas? Mais Dieu nous aime. Pensez aux gens de ce monde autour de vous. Hein? Ils sont sans Dieu et sans espérance. Ils ont même Dieu pour leur ennemi. Quand on regarde ce passage, verset 4, « Ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. On les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. » Quand même, si vous êtes chrétien, vous n'êtes pas dans cette situation. Vous avez Dieu pour votre ami et vous avez un Dieu qui vous aime. Alors même si votre situation est difficile, n'oubliez pas et ne mettez pas en question l'amour de Dieu pour vous. Mais deuxièmement, ici, on pose la question, est-il possible que vous méprisez Dieu sans en être conscient? Les versets 7 au verset 14. Et Dieu parle ici aux sacrificateurs, aux prêtres, les chefs, ceux qui sont responsables pour le louange, le culte, les sacrifices, l'enseignement de la loi. Et on peut dire oui, c'est ces personnes qui ont la plus grande responsabilité devant Dieu, n'est-ce pas? Mais ils ont un rôle différent, mais Dieu ne les appelle pas à une vie spirituelle différente. Dieu nous appelle tous, n'est-ce pas, à vivre pour lui et d'être à une vie de sainteté. Et voilà, ces paroles aussi s'adressent à nous tous. Et on voit d'abord, versets 6 à 7, la preuve qu'ils étaient inconscients de leur mépris. Regardez la fin de verset 6. Il dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Et là, on voit encore qu'ils ne savaient pas. Là, on voit dans ce passage que le culte se passait comme Dieu a demandé. Il y a les sacrifices, il y a les sacrificateurs, et les gens y vont, et tout se passe, on peut dire, extérieurement, comme il fallait. Ils enseignaient la loi, on voit en chapitre 2, et même en verset 9, je pense que la meilleure façon de le comprendre, ils pouvaient prier les prières qui semblaient très sincères. Mais, au fond, ça n'allait pas. Ils étaient les hypocrites et Dieu ne les écoutait pas. Et on pense au roi David qui a pu, pendant les mois et les mois, continuer comme le roi quand il n'avait aucune communion avec Dieu. Et le fait que vous êtes là ce matin, ce n'est aucune preuve que vous êtes en communion avec Dieu et que ces choses ne s'appliquent pas à vous, n'est-ce pas? Et on voit la preuve qu'ils étaient coupables. Et ça, Dieu le parle de leur attitude dans le culte, dans l'adoration et dans leur sacrifice, la qualité de leur sacrifice. Dans l'Ancien Testament, il y avait les commandements d'apporter les animaux parfaits à Dieu. Les animaux sans tache. On voit ça dans le Deutéronome 15, 21. S'il y a quelques défauts, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il y a quelque autre difformité, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Alors bien sûr, aujourd'hui, nous savons la signification, n'est-ce pas, de ces sacrifices. C'est l'image de Jésus-Christ, l'agneau parfait, sans tache, qui est offert pour nos péchés à la croix. Celui qui s'est donné à Dieu pour prendre la punition de nos péchés. Et 1 Pierre 1, 18 et 19, il en parle. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Alors, on ne sait pas combien ils ont compris de tout cela. Hein? C'est difficile à dire. Il y en a sans doute ceux qui ont mieux compris que les autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne respectaient pas ce que Dieu a dit. Qui comprenait pas ou non n'était pas la question. Dieu l'a dit, la parole était claire. Et ils montraient par leur attitude qu'ils ne... Ils n'avaient pas une volonté d'obéir à la parole de l'Éternel. Ils apportaient les animaux aveugles, les animaux boiteux, et ils n'avaient aucune crainte. Ils avaient perdu, on peut dire, le désir de vivre pour la gloire de l'Éternel. Il y a même un double péché, n'est-ce pas? Parce que d'un côté, le peuple apportait ses sacrifices qui n'étaient pas dignes de l'Éternel, et de l'autre côté, les sacrificateurs les acceptaient. C'était à eux de reprocher le peuple et de ne pas accepter ces choses. Et quand on pense, ça aurait été facile sans doute de raisonner pour montrer que quand même ça va. Après tout, on va tuer l'animal. À quoi servent les bons yeux à un animal qui est mort? Et si l'animal boite, peu importe, on va couper cet animal en morceaux. Alors c'est pas important. Oui. On peut raisonner d'une telle façon, mais la parole de Dieu disait qu'il ne fallait pas le faire. Et le raisonnement de l'homme est dangereux quand ça va contre, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Et on voit ce qui était l'attitude en verset 13, au fond de leur cœur. Il dit, vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et là on voit, n'est-ce pas, le problème au fond dans le cœur. Imaginez, mon fils avait un appareil photo. Et voilà, c'était un bon appareil, mais en fait, ça ne prenait pas des belles photos. Il y avait un problème avec. Alors, il le met dans le placard, il ferme, peu importe. Et il prend un autre, il achète quelque chose de meilleur. Alors là, c'est bien, ça prend des belles photos. Alors, arrive mon anniversaire. Et je reçois le cadeau de mon fils. Et j'ouvre le cadeau. Et qu'est-ce que je trouve? L'appareil photo, il avait mis dans le placard, qui ne prend pas des belles photos. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de l'attitude de mon fils envers moi? Je rigole. Alors, vous pensez la raison. Oui, mais on dit, mais c'est affreux de faire une telle chose. Mais on peut faire la même chose avec Dieu, n'est-ce pas? On peut se comporter d'une façon sans même se rendre compte, où on offre des choses à Dieu qui ne sont pas dignes de Dieu. Pensez à votre temps, votre effort, votre argent, ce que vous donnez à lui. Est-ce que la Bible dit clairement, n'est-ce pas, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alors, on revient souvent à la, je pense, c'est la chose fondamentale, mais votre communion avec l'Éternel, votre communion quotidienne, combien de temps est-ce que vous passez avec lui? Est-ce qu'en fait, dans votre vie, il faut faire tout, plein de choses, et à la fin, le temps qui reste disponible, voilà, là, je peux l'offrir à Dieu. C'est souvent comme cela, n'est-ce pas, qu'on gère nos vies. Il y a plein de priorités, et à la fin, ce qui reste est disponible pour l'Éternel. C'est pareil avec l'attitude envers souvent les réunions de l'Église. Vous avez sans doute, par dimanche, vous avez les autres réunions pendant la semaine, que ce soit les réunions de prière, les études bibliques, ou même l'évangélisation. Comment est-ce que vous gérez votre semaine? Est-ce qu'en fait, il y a toutes ces choses qu'il faut que je fasse, et si c'est convenable à la fin, voilà, j'irai à la réunion de l'Église. Si ça convient. C'est souvent comme cela, n'est-ce pas, qu'on gère la vie. Et est-ce qu'on n'est pas finalement... Est-ce qu'on ne tombe pas dans le piège de ce peuple qui offrait des choses qui convenaient à l'Éternel au lieu d'avoir l'Éternel là en priorité? Et c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas, qui révèle notre cœur et notre attitude. On ne le dit pas, peut-être, mais on le montre par notre attitude. Il raisonne avec eux, il dit, voilà un père, est-ce qu'un père fera pareil? Un fils, pardon, envers son père, ou envers mon patron? Est-ce que j'agis comme cela envers mon patron, ou envers les autorités, le gouverneur? Il utilise toutes les illustrations pour montrer que ce peuple n'avait aucune crainte, en fait, de Dieu. Alors, qui avez-vous la plus peur d'offenser? Il faut réfléchir, hein? Qui? Ça peut être votre femme, votre mari, peut-être. Vous voulez surtout pas offenser votre conjoint. Ou peut-être votre patron, après tout. Il me faut le travail. Il ne faut pas que j'offense mon patron. Un jeune homme qui tombe amoureux, s'il achète un cadeau pour la fille, je pense qu'il prend beaucoup de soin pour que ce cadeau soit tout ce qu'il faut pour montrer son amour pour elle. Hein, il veut faire une bonne impression. Et notre Dieu, est-ce que nous ne faisons pas le même effort pour montrer notre amour pour lui? Ou est-ce que vous vous êtes refroidi dans votre cœur? La cause, c'était quoi la cause et que serait le remède? Hein, partout dans ce livre, il parle de la crainte de Dieu. Il y avait un manque de crainte dans le cœur. D'où vient la crainte? C'est quand on connaît la parole de Dieu, quand on médite la parole de Dieu, quand nous voyons comment Dieu il est dans sa nature et tout ce qu'il est dans sa parole. C'est là où on a la crainte, n'est-ce pas, de l'Éternel. On avait une fille dans une équipe d'évangélisation qui avait une crainte des serpents. Vraiment, peut-être c'était trop. Mais elle a vécu en Afrique. Elle était une fille de missionnaire. Elle a connu les serpents. Elle craignait les serpents. Bon, on peut dire peut-être que ça peut aller trop loin. Mais la bonne crainte, souvent, c'est quand on connaît quelque chose bien. Et on sait les dangers. Et on sait exactement ce que veut dire ces choses. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous craignez Dieu comme il est dans sa parole? Vous savez, le Dieu du ciel est aussi le Dieu de l'enfer. Le Dieu d'amour est aussi le Dieu de la justice, n'est-ce pas? Et on peut facilement perdre la vision de la grandeur de Dieu, et on voit ça plusieurs fois dans ce chapitre, hein, il le rappelle, qui est leur Dieu. Verset 5, il dit « Grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël ». Et encore en verset 11, « Car depuis le lever du ciel jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations ». Et il dit encore « Car grand est mon nom parmi les nations ». Il termine en verset 14 en disant « Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations ». Est-ce que vous craignez l'Éternel? Et finalement, ne soyez pas inconscient des avertissements de Dieu. Il y a les avertissements à travers ce chapitre, mais la parole de Dieu est remplie des avertissements. Et comme j'ai dit, ce livre est écrit aux soi-disant croyants, ceux qui croient. Qu'est-ce qu'on fait avec les avertissements qui sont donnés aux personnes qui disent qu'ils sont croyants? Je pense qu'on peut les voir, je les vois un peu comme les panneaux qu'on voit autour de nous dans la vie avec les avertissements. Électricité, danger de mort. Ou baignade interdit, parce qu'il y a un grand danger. Ou, et vous êtes très gentil en France, les panneaux qui, quand on est sur la route et on roule trop rapidement, trop vite, voilà, ça vient, danger. Et voilà, ralentissez-vous. En Angleterre, il y a simplement une caméra qui va dire clic, et voilà, vous avez une amende. Mais vous êtes gentil ici, vous donnez au moins l'occasion de se repentir et de se ralentir. Mais ces panneaux, n'est-ce pas, sont là pour notre bien. Et ceux qui obéissent vont profiter. Et un croyant, un vrai croyant en Dieu, quand il voit ces avertissements dans la parole, il va écouter, il va les entendre, et il va se ralentir. Il ne veut pas continuer à sa perte. Mais quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu dans son cœur, qui est né de nouveau, écoute et il se repent. Et ça, c'est la preuve, n'est-ce pas? La preuve que je suis chrétien n'est pas qu'il y a 35 ans, j'ai pris une décision de mettre ma foi en Jésus-Christ. Pour moi, la preuve, c'est que ce matin, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Que ce moment même, je suis en train de me confier en Jésus-Christ. Ce n'est pas une expérience dans l'histoire, c'est que je marche avec lui et que j'écoute sa voix et je lui fais confiance et je reçois son pardon. Vous savez, si vous avez des doutes par rapport à votre salut, c'est très facile à régler. Simplement, tourne vers le Seigneur maintenant. Pas besoin de regarder en arrière et dire « Oh, est-ce que vraiment j'avais mis ma foi en lui ?» Fais-le maintenant. Faites-le et c'est fait. Le Seigneur peut vous sauver à tout moment, n'est-ce pas? Alors, ici dans ce passage, moi j'ai trouvé trois choses à ne pas oublier si votre louange est hypocrite. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est conscient de l'hypocrisie dans le cœur. D'abord, Dieu ne veut pas de votre louange. Et nous le voyons en verset 10. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Waouh, quelle pensée, hein? Mieux fermer la porte que d'apporter une louange hypocrite. En Angleterre, il y a beaucoup d'églises qui deviennent des mosquées. Et c'est triste, c'est triste. Mais, je dois dire que la plupart de ces bâtiments d'église ne prêchaient plus l'évangile. Alors, est-ce que Dieu a fermé les portes? En fait, est-ce que c'est aussi triste que ça? Parce qu'en fait, c'est mieux ne pas avoir une louange hypocrite que de continuer. Il y a quelqu'un, c'est quelqu'un qui est pakistanais, qui, voilà, chrétien de nom, et quand il entendait que les musulmans voulaient acheter une église en ville, un bâtiment d'église dans la ville. Alors lui, il se manifestait, il était contre, il était furieux que les musulmans vont acheter un bâtiment d'église. Mais je connais cet homme et je connais sa famille. Sa femme, c'est une chrétienne. Et il va à l'église tous les dimanches, mais il est hypocrite. Il doit le savoir, moi je le sais. Je sais comment il vit sa vie. Je ne vais pas en parler. Mais il s'oppose à ça. Mais Dieu s'inquiète beaucoup plus pour son cœur qu'un bâtiment qui ferme. Alors Dieu ne veut pas de votre louange. Mais si vous êtes hypocrite, Dieu peut accomplir aussi ses desseins sans vous. Dieu avait ses desseins pour ce peuple, qu'ils soient les témoins aux nations autour d'eux, et que les gens voient comment ils aimaient Dieu, et ils diraient, oh, que l'Éternel est grand, que l'Éternel est bon. Et on voit en verset, mais ils apportaient le déshonneur, mais on voit en verset 11, le désir de Dieu, n'est-ce pas? Et ces versets, en fait, c'est les prophéties, parce que ça ne se passait pas, bien sûr, quand il a écrit, il parle d'une situation dans l'avenir. Certaines traductions vont traduire « car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom sera grand parmi les nations. » Et l'on présente des offrandes pures « car grand sera mon nom parmi les nations. » En fait, c'est une prophétie qui est merveilleuse. Que vous croyez que c'est complètement accompli ou non, on doit admettre, n'est-ce pas, que quand il a écrit ces paroles, il y avait une nation, petite nation, dans le monde, qui avait la parole de Dieu. Et même dans cette nation, il y avait un reste, qui est en fait un petit reste, qui louait l'Éternel sincèrement. Quelle était la probabilité que ces choses se passent, que le monde entier, partout, il y aurait les croyants qui louent l'Éternel en esprit et vérité? Et je trouve des fois on oublie la grandeur de ce qui s'est passé dans l'histoire, que ces choses se sont accomplies, que ce soit complètement, peut-être pas pour le moment, mais quand même, il y a un accomplissement partout dans ce monde ce matin. Il y aura les vrais croyants qui louent l'Éternel en esprit et en vérité. Et voilà, il en parle ici. Quand le Seigneur Jésus était dans une pièce à Bethanie, petite ville, village en Israël, il y a des années, il y avait une femme qui l'a oint de parfum. Et le Seigneur a dit, Matthieu 26, 13, « Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Dans un petit village, un acte d'une femme simple. Le Seigneur dit partout dans ce monde. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur a dit est accompli. Si vous êtes sceptique ce matin, voilà, réfléchissez quand même à ces paroles. Comment est-ce que ces choses sont arrivées sans que la main de Dieu soit à l'œuvre? Partout dans ce monde, la femme qui a oint les pieds du Seigneur est connue. Le Seigneur l'a dit il y a 2000 ans, plus, peut-être, oui, à peu près 2000 ans, et la probabilité était, je ne sais pas, je ne suis pas mathématicien, allez voir mon ami là qui est scientifique après, il vous dirait. Christ, mais pour Israël, la leçon c'est que si vous ne suivez pas l'Éternel, il va accomplir quand même ses desseins. Dieu n'a pas besoin de vous. C'est un avertissement, n'est-ce pas? Il n'accepterait pas le louange hypocrite. Et dernièrement, Dieu va vous maudir. Regardez le verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous sacrifie au Seigneur une bête chétive. Il le dit encore au chapitre 2, verset 2. Est-ce qu'il n'y a rien de pire que d'être maudit de Dieu? Où est-ce qu'on peut aller si Dieu nous a maudits? Si Dieu est contre nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne peux pas me tuer de m'échapper de Dieu. Il n'y a rien que je peux faire. Si je suis maudit de Dieu, c'est une situation affreuse. affreuse dans laquelle je me trouve. Ce matin, examinez-vous bien où vous en êtes avec l'Éternel. Et venez à lui. Celui qui a donné sa vie à la croix, le Seigneur Jésus, pour mourir, pour prendre sur lui la punition que vous méritez. Venez à lui pour avoir votre vie en règle, pour avoir le pardon de Dieu. Alors, il est possible que nous soyons dans cette situation sans même en être conscients. Alors, est-ce que vous, ce matin, vous êtes conscient de l'amour de Dieu? Est-ce que vous avez une attitude dans le cœur qui peut en fait être mépris de Dieu sans même en être conscient? Surtout quand même, écoutez les avertissements de l'Éternel.